France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Il avait un rêve et il l'a réalisé. C'est beau de réaliser ses rêves. Bonjour Emiliano González Toro.
Bonjour.
Ce rêve, c'était d'enregistrer l'un des premiers opéras de l'histoire de la musique, sinon le premier, Orfeo de Monteverdi, comme chanteur que vous êtes dans le rôle titre, mais aussi comme chef, vous l'êtes également à la tête de cet ensemble, Idjemeli. D'abord, disons-le d'emblée, chef-chanteur, c'est répandu.
Ça devient de plus en plus répandu et je dois avouer que ça me réjouit. Ça semble assez logique dans cette musique, surtout de la musique du XVIIe, où la notion stricte d'un chef au bâton ou qui dirige depuis un poste de direction était encore quelque chose qui n'existait pas. Et donc, je pense qu'il y a une certaine légitimité au fait que les chanteurs, que ce soit Philippe Jarouski, que ce soit Nathalie Stutzmann, qui avait ouvert la voie notamment, ou d'autres, je pense notamment à Reinoud van Mechelen ou bien d'autres, je pense que c'est un courant qui vaut la peine et qui est tout à fait intéressant.
Alors comment on fait pratiquement pour un enregistrement comme celui-ci? On est face à l'orchestre, au chanteur, et quand c'est soi qui chante, comment ça se passe avec les micros?
Comment on fait? Eh ben, c'est souvent un casse-tête. On en parle d'ailleurs, on enregistre un autre disque là début janvier et du coup ça fait toujours partie de la réflexion. En l'occurrence pour cet Orfeo, on était dans une très grande salle à l'Opéra de Montpellier et je me suis mis un peu au Corum, tout à fait, mais dans une des salles annexes, et je me suis mis au centre et j'ai développé une espèce de double arc de cercle avec une partie de mon continuo pile en face de moi, des chanteurs à côté de moi et tous les vents en face, histoire d'avoir un peu le contrôle, comme dit souvent Hervé Niquet, d'avoir tout le monde un peu à portée de gifle. ça me fait beaucoup rigoler. Non, il faut un petit peu préparer les choses. Comment ça se passe? Ben, il faut souvent anticiper aussi le fait que forcément, quand on dirige, on va être un petit peu fatigué. Donc, je me suis réservé les premiers jours pour enregistrer ce qui me concernait tout seul et les parties les plus délicates. Et ensuite, on fait les choses. On fait le contraire. Souvent, les disques, ils se montent pour des raisons économiques d'une façon à ce qu'on enregistre d'abord les choses en tutti, ou les choses les plus massives avec le plus de monde. Et on est là petit à petit pour finir avec les choses où il reste le moins de personnes possible. Là, j'ai fait un peu le contraire. J'ai fait en crescendo où j'ai commencé tout seul avec mon continuo. Des fois, juste on est à trois. Et puis, on a fini avec tout le monde.
Comment vous avez appris la direction?
Comment on apprend la direction? La direction, ça s'apprend par beaucoup d'observations déjà. J'ai pu travailler à l'époque à Genève avec Philippe Corbeau au collège Voltaire, qui donnait des cours quand il dirigeait le chœur du collège. Et j'ai aussi eu la chance de pouvoir travailler un tout petit peu avec Michel Corbeau à l'époque.
L'ensemble vocal de Lausanne.
L'ensemble vocal de Lausanne, mythique ensemble vocal de Lausanne où j'ai fait tous mes débuts. Et ensuite, après toutes ces années, ce qui est formidable, c'est que j'ai pu travailler avec beaucoup, beaucoup de chefs et que j'ai pu commencer aussi à observer leur façon de travailler, voir ce qui je trouvais très intéressant, voir aussi là où ils arrivaient à obtenir des résultats et comment, et puis tâcher de m'en inspirer.
Après, Christophe Rousset, par exemple.
Christophe Rousset, entre autres.
Vous avez travaillé avec lui, beaucoup travaillé avec Christophe. Vous continuez.
Oui, tout à fait. Et puis c'est vraiment quelqu'un qui a été une référence pour moi. Je citais tout à l'heure Michel Corbeau. Michel, vraiment, c'est quelqu'un aussi qui est une source d'inspiration très importante. Entre autres, on va pas faire tout le name dropping parce qu'il y en aurait trop, on passerait toute la mission. Mais vraiment, j'ai beaucoup beaucoup d'admiration pour tous ces chefs et j'ai essayé de m'inspirer de tout ce qui me plaisait chez eux.
Baguette, sans baguette?
Sans baguette.
Yeah.
le début d'un des premiers opéras de l'histoire de la musique, le début de l'Orfeo de Monteverdi, la Toccata, l'ensemble Igemeni, dirigé par Emiliano González Toro, notre invité ce matin. Ça vient de paraître chez Naïve, cet enregistrement, avec cette Toccata si célèbre et reprise, hein, qui est même devenue un indicatif pour nous à la radio des concerts diffusés par l'Union européenne de radiodiffusion. D'abord, revenons peut-être à cet ensemble, Igemeni, Emiliano González Toro. Comment vous l'avez imaginer, créer, fonder? C'est le troisième projet, là?
C'est le troisième. En réalité, on en a plusieurs en avance, déjà, mais c'est le troisième qui sort. On devait sortir l'année dernière Le Soleil Noir, mais qui va sortir l'année qui vient, qui avait été aussi enregistré dans la foulée. Et en fait, comment on crée un ensemble? On l'a créé parce qu'on avait envie. Parce que quand je dis on, c'est Mathilde Etienne et moi, Mathilde Etienne qui est ma femme. Et en fait, ça faisait longtemps que on travaillait ensemble sur d'autres types de projets, des projets qui ont rien du tout à voir avec la choucroute, comme on dit, des projets très personnels sur l'Amérique latine notamment. Et pour moi, c'était très important. À un moment donné, après une vingtaine d'années de carrière, j'ai ressenti très fort cette envie de prendre part un petit peu à la responsabilité d'une œuvre et de me dire, ben si c'est chouette, c'est parce qu'on a bien bossé. Si c'est pas chouette, ben c'est dommage, mais c'est de ma faute. Et en fait, j'aimais bien l'idée de m'impliquer, de plonger un peu dans ce monde-là et de construire. Et vous le disiez tout à l'heure très très bien, ben de rêver et d'aller au bout de ses rêves. Quand on a 40 ans, on se dit bon ben qu'est-ce qu'on a envie de faire maintenant. Quand j'ai chanté beaucoup de choses dans plein d'endroits magnifiques
et beaucoup Orfeo notamment.
Et beaucoup Orfeo et tous les opéras de Monteverdi et enfin les trois et d'autres choses. Eh ben, on se dit, ben, quels sont les nouveaux challenges? Ben, le nouveau challenge, c'était celui-là. Et on s'est jeté à corps perdu là-dedans parce que très pragmatiquement parlant, je sais que j'ai encore un certain nombre d'années vocales devant moi et j'avais envie de les utiliser à bon escient pour moi.
Oui, c'est pas pour préparer l'avenir.
On prépare toujours l'avenir.
D'arrêter de chanter,
non,
que
pas,
diriger.
Ça n'est pas prévu que j'arrête de chanter là. Mais on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Et surtout, ce qui est très important, c'est aussi de se projeter. Qui plus est cette année en 2020 où on s'est beaucoup projeté et puis finalement il s'est pas passé grand chose, mais c'est important de jamais s'arrêter. Et en fait dans le chant, dans cette musique, et qui plus est la musique du 17e italien, ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'a jamais fini de chercher, on n'a jamais fini de creuser, on n'a jamais fini d'étudier. On lit plus une œuvre comme Orfeo aujourd'hui comme on la lisait il y a 20 ans ou comme il y a 40 ans. Aujourd'hui on a des éléments qui nous permettent d'avancer, et j'espère que d'ici 10, 20, 30 ans, 40 ans, on pourra encore aller plus loin dans une lecture de cette musique-là.
Pourquoi Igemeni, les jumeaux?
Ben, parce qu'on dit, Igemeni pour nous c'était important en italien parce qu'on allait faire spécifiquement, en tout cas au départ, de la musique italienne. Igemeni parce que je suis gémeaux, ma femme aussi, une grande partie des musiciens qui font partie de l'ensemble aussi, et puis parce que c'est joli.
Mais tout simplement, Emiliano González Toro, je ne l'ai pas dit d'ailleurs, parce que pour décrypter certaines choses que vous dites, vous êtes suisse, mais d'origine chilienne, on en parlera tout à l'heure, on écoutera la musique chilienne. Alors, c'est ce troisième projet qui sort au disque avec cet Orfeo que vous portiez en vous depuis longtemps, que vous avez chanté, que vous êtes mis à diriger. Quel est le travail que vous avez fait sur cet Orfeo par rapport à quand vous avez été dirigé par d'autres chefs dans de multiples productions et projets?
Eh ben, c'est un travail qui n'a absolument rien à voir. Quand on est chanteur, on travaille une partition, sa ligne. J'ai beaucoup de collègues qui sont extrêmement précautionneux et doués et qui travaillent aussi tout plein d'autres aspects d'une partition. Moi, surtout quand on travaille un rôle-titre, ce qui est très important, c'est d'abord de connaître l'histoire, c'est aussi de connaître le texte, de l'avoir lu, de le comprendre et ensuite d'avoir travaillé la ligne. Déjà, c'est un travail d'une intensité assez importante. La ligne de chant, la ligne vocale, aussi intégrer un rôle dans son corps, ça prend du temps. On peut pas apprendre à chanter un rôle en 5 minutes. Il faut du temps, même si on l'étudie un peu tous les jours. Il doit s'intégrer au corps pour qu'il soit fluide et qu'il ait l'air d'être facile à chanter, alors que rien n'est jamais facile à chanter. Si ça a l'air facile, c'est que le chanteur a bien travaillé. Et ensuite, la différence par rapport à la direction, déjà, il a fallu que j'apprenne tous les rôles par cœur. Il a fallu que j'apprenne toute la musique par cœur, en fait. Que je comprenne et que j'analyse cette partition de fond en comble, de gauche à droite, de haut en bas, dans tous les sens, que j'écoute pas du tout beaucoup de versions au départ, mais que je, pour éviter d'être trop influencé par ce qui s'est fait par avant, j'avais envie aussi d'avoir une vision personnelle et enfin, ce que j'avais dans ma tête, j'avais envie de le ressentir sans m'être fait trop influencé par ce qui s'est fait auparavant et qui faisait partie du travail de cette réflexion qu'on a eue sur cet Orfeo qui a duré plus de 3 ans, en fait, hein, avant de l'enregistrer. Ça a pris un petit temps. Et donc voilà, c'est un travail qui est totalement différent. Ensuite, il y a un travail d'organisation, de montage, d'administration, de recherche, de subventions, de mécénat, tout un travail qui n'a rien à voir avec le fait que quand on est engagé juste pour chanter, ben on vient quelque part juste pour chanter.
Et le résultat de ce travail, c'est donc ce disque qui paraît chez Naïve, ce coffret. Voici un extrait. Cette fois, on va vous entendre chanter Emiliano González Toro, Orfeo Monteverdi.
Benedico il mio tormento, dopo il buon vi è più contento, dopo il mal vi è più felice. Sol per te, bella Euridice, sol per te, bella Euridice.
Extrait de l'Orfeo de Monteverdi, Emiliano González Toro qui chante et qui dirige Idjemeli avec deux autres chanteurs ici.
Juan Sancho et Zachary Wilder, probablement les deux plus magnifiques ténors pour chanter ces parties. Chacun d'entre eux pourrait chanter Orfeo les doigts dans le nez et probablement peut-être même mieux que moi, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils sont fantastiques et je sais la chance et le cadeau que j'ai eu de les avoir là pour chanter ce duo à l'acte 2 dans toute la déploration. Ils sont juste extraordinaires.
Qu'est-ce qui se passe là en ce moment sur l'extrait qu'on vient d'écouter ?
Ça, c'est juste le moment où en fait, il est très très heureux. Il vient de passer un moment magnifique avec Eurydice. Ses copains, les bergers sont avec lui et tout le monde se réjouit. Oui, il y a une belle ambiance bien pastorale et d'un seul coup, il y a la première péripétie qui arrive. La messagère vient annoncer la mort de Riz.
Pourquoi, Emiliano González Toro, avez-vous en vous cette passion pour l'Orfeo de Monteverdi ? Pourquoi c'est la pièce, comme vous dites ?
C'est la pièce, pour moi, c'est vraiment la pièce. Pourquoi ? Eh bien, en fait, il y a un appel, de la forêt, si j'ose dire, pour paraphraser. J'ai toujours senti, depuis ma tendre jeunesse, quand j'ai eu accès à cette œuvre pour la première fois, que c'était quelque chose que je comprenais et qui avait envie de moi. Et j'ai senti que cette musique était très importante pour moi très vite. Et je n'ai jamais cessé de la travailler, de la chanter. Dès mes premiers enregistrements, j'ai enregistré déjà les Vêpes de Monteverdi avec un ensemble qui s'appelle à Fribourg. C'était très important pour moi de conserver un lien avec cette musique, même si après, pendant mes études et pendant le début de ma carrière, j'ai aussi chanté beaucoup d'autres styles. Mais maintenant, c'est une espèce de retour à l'essence et à l'essentiel pour moi. Et puis aussi, c'est quelque chose qui rejoint fortement ma vocalité. C'est vraiment une musique qui est cohérente avec mon instrument et dans laquelle je me sens capable de m'épanouir.
C'est quoi la sprezzatura ?
La sprezzatura, c'est, on pourrait dire d'une certaine façon, c'est la classe et c'est la nonchalance. C'est cette façon de faire paraître les choses extrêmement simples alors qu'elles ont demandé beaucoup de travail et l'air de rien. On a beaucoup bossé, on a beaucoup travaillé, et quand tout a l'air très simple, on se dit waouh, ça a l'air simple, c'est super facile, ça flotte, c'est easy quoi. Et ben c'est ça, la sprezzatura, c'est quand tout a l'air super simple.
Donc il faut beaucoup de sprezzatura dans cet Orfeo de Monteverdi.
Il en faut énormément. En fait, c'est ce qui fait la différence avec les œuvres qui ont suivi. L'Orfeo, c'est paradoxalement, on dit que c'est le premier opéra, mais c'est surtout le premier opéra qui a tout synthétisé, beaucoup de styles différents. Et ce travail, en fait, justement, il y a ce qu'on appelle aussi l'affetto, l'affectation, en fait. Et c'est quelque chose qui n'a pas vraiment lieu d'être encore à cette période-là dans la musique. C'est encore un opéra qui est très renaissance, en fait, qui est fin renaissance, avant le début du baroque. Et en fait, ce qui fait que c'est très important, cette sprezzatura, elle ne peut surgir que quand on est dans un tactus extrêmement strict, comme pour le jazz, comme pour la musique latino. En fait, si dans une improvisation, on a besoin que la base, le piano, la basse, la percussion, par exemple, si le saxophone doit improviser, chacun respecte une structure pour que le saxo puisse flotter et puisse surfer par-dessus. Je dis le saxo, ça pourrait être n'importe quel autre instrument. C'est la même chose un peu dans ce style de musique-là. Si on a un continuo qui est assez focalisé, assez strict, le chanteur par-dessus, bien qu'au départ je leur demande de travailler beaucoup avec le métronome et d'une façon très stricte, une fois qu'il s'est libéré de ça, qu'il a compris la structure de ce qu'il doit chanter et qu'il a compris aussi le tactus, il peut passer sur ces lignes en donnant l'impression qu'il surfe en fait.
Donc le tactus, c'est la structure.
C'est ça, c'est une structure, c'est une espèce de continuum de temps, de rythmique, comme un battement cardiaque. Qui peut évoluer en fonction de ce qu'on ressent. Si on est triste, il ralentit. Si on est énervé, il accélère. Quand on est très amoureux, il s'emballe.
Et sans entrer trop dans les détails techniques, mais à quel moment on orne le chant et à quel moment on ne l'orne pas, l'ornementation ?
Eh ben nous, on a choisi un parti pris très spécifique, qui est que les humains, en tout cas dans notre version, les bergers, les nymphes, n'ornent pas. Orfeo, quand il est encore considéré comme semi-humain, il n'orne pas et il commence à orner seulement à l'acte 3, quand il commence à devenir un demi-dieu. Et seuls ornent les dieux et les représentants d'autres types, comme la messagère, la speranza ou la musique.
Décidément, Orfeo vous obsède, Emiliano González Toro, puisque le prochain projet qui sort le mois prochain, dont on va écouter en avant-première un extrait, Soleil Noir, a un lien direct avec Orfeo de Monteverdi.
C'est vrai, Francesco Rasi, le créateur du rôle de l'Orfeo, tout à fait. C'est vrai que ça m'obsède un peu, mais bon, ça ne me dérange pas.
Bon, bah, allongez-vous sur le divan, chanteur donc et compositeur.
Tout à fait.
Darlo febbo, il suo bell'orme eterno, e Cinzia mi risvela il puro argento, io lontano da voi. Lusinghevol vento belle di ruscelli il
de Francesco Rasi, donc chanteur et lui compositeur, le créateur d'Orfeo, avec la voix d'Emiliano González Toro et l'ensemble Il Gemelli, un disque qui paraît le mois prochain.
Qui va paraître au mois de mai.
Au mois de mai finalement. Fait, ouais. D'accord,
au mois
donc
mai,
c'est
finalement.
Un peu décalé.
Ça, c'est un petit peu décalé.
Tout bouge en ce moment, chez Naïve en tout cas. Indarno Febo, ce qui veut dire.
En fait, c'est une allégorie du soleil et de la lune, de l'amour, de la rencontre. C'est une œuvre très orphique en fait, qui parle vraiment d'Apollon en fait.
Francesco Rasi, encore un compositeur avec une vie assez sulfureuse, un assassin ou presque. Enfin, il n'a pas réussi son coup.
Quasi assassin, oui. Apparemment, il avait un petit caractère et il aimait pas trop sa belle-mère. Donc.
Alors, Emiliano González Toro, évidemment, il y a des dates de concert qu'on peut annoncer ou pas, parce que tout ça est en train de bouger tout le temps. Ça se passe comment en Suisse en ce moment, pour vous, pour les musiciens?
En Suisse, c'est assez compliqué. Je dois dire que c'est assez compliqué, comme partout ailleurs. On ne sait pas trop sur quel pied danser et c'est difficile pour nous de projeter beaucoup, parce que à chaque fois qu'on se pose et on décide de monter quelque chose, et ben ça s'annule. Donc il faut avoir le pied léger et savoir danser un petit peu par-dessus. Ouais.
Vous auriez dû venir ici dans Musique Matin il y a quelques semaines, et puis on a fait une émission spéciale parce que c'est la disparition d'Anne Sylvestre, vous étiez déjà dans le train. Merci beaucoup de revenir ce matin. Vous me disiez qu'Anne Sylvestre, elle était une vraie star en Amérique latine, au Chili.
En tout cas, une référence, en tout cas, ça c'est sûr, pour son engagement politique en général. Et je sais que mon père l'admire énormément, entre autres.
Votre rapport à la musique chilienne, on va finir d'ailleurs avec un disque que vous aviez fait paraître il y a quelques années, la musique populaire, vous continuez en parallèle à avoir des projets.
Absolument. Pour moi, c'est important aussi, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est pas du crossover du tout, ça reste vraiment pour moi un devoir de mémoire, c'est très important que c'est un de mes chevals de bataille, que notre génération, les segundos, comme on appelle, on prenne aussi notre part à ce répertoire, à toutes ces chansons qu'on a apprises avec nos parents, et qu'on puisse aussi les faire nôtres, qu'on puisse aussi, toutes ces générations, et celles d'après, même les jeunes vingtenaires, qui puissent appréhender cette musique et la chanter avec leur vision. Et on a un nouveau projet qui va sortir aussi en mai avec Francesco Rasi, qui est Violeta Parra Meets Jazz avec Thomas Enko. C'est un album qu'on a enregistré il y a un peu plus d'une année.
Et Violeta Parra, pour ceux qui ne connaissent pas.
Immense poétesse, extraordinaire artiste, probablement une des artistes les plus emblématiques d'Amérique latine, chilienne. Qui a écrit parmi les plus belles chansons qu'on puisse connaître aujourd'hui dans le répertoire latino-américain des années 60, inventeuse, je sais pas si on dit, inventeur de la folk quasiment, je crois que Bob Dylan et John Baez lui vouent un culte absolu. Et voilà, donc ça c'est un énorme et magnifique programme que j'ai construit autour de Violeta Parra.
Deux disques à paraître en mai. En tout cas, Orfeo de Monteverdi, il est bien là. Chez Naïve, Emiliano González Toro, Il Gemelli. On espère vous entendre le 10 février, salle Corto à Paris, avec Zachary.
Donc avec Zachary Wilder, tout à fait. Je me réjouis.
Ténor. Et puis, on ne peut pas vous entendre comme ça aurait dû être le cas dans Don Quichotte chez la Duchesse de Boismortier. C'était prévu. C'était un spectacle prévu à Versailles.
Mais en échange, du coup, vous aurez Violeta Parra sur Arte Web Live le 29 janvier. Le 29 décembre.
29 décembre.
Comme ça, vous aurez un petit aperçu du Violeta Meets Jazz déjà.
Pour écouter ça. Ça vous va si on se quitte avec la murala.
La muralla.
La muralla. Vous allez me donner des plaisir. Cours, ce qui ouais. veut dire. Vous la pouvez muraille, tout traduire ce matin.
Bien sûr, la muraille, tout à fait. Non, c'est, on l'a construit pour la détruire et pour nous protéger.
La muralla.
C'est ça.
La muralla de
Victor Jara.
C'était Emiliano González Toro. Merci beaucoup et merci pour cette Orfeo. À très bientôt pour ces nouveaux projets.
Merci. Merci beaucoup pour l'invitation et à très bientôt. Bonne fête.
Demain, notre invité sera Théotime Langlois de Swart,
le grand violoniste,
qui nous présentera son nouveau disque qui fait du bien en ce moment.
À réécouter sur francemusique.fr.